France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur l'hôpital public qui connaîtrait une crise de vocation et peinerait à attirer en masse les jeunes médecins. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a mis en place une série de mesures afin de les attirer dans l'orbite de cette belle, de cette irremplaçable institution de la République et d'éviter par là même les déserts médicaux. Pensez-vous que l'hôpital soit en crise? Quelle expérience en avez-vous? Patients, soignants, médecins, futurs médecins, vos questions ce soir au téléphone sonne.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Vous pouvez nous contacter via Twitter avec le mot clé Telson, via le site internet de France Inter, franceinter.fr ou au standard 01 45 24 7000. Bonsoir Dominique.
Bonsoir Nicolas.
Soyez la bienvenue.
Oui, je vous remercie. Voilà, je suis une infirmière de 57 ans, bientôt à la retraite, qui a vu l'hôpital se déstructurer, en particulier depuis une petite dizaine d'années, suite à des audits multiples qui ont complètement modifié nos organisations de travail. Alors, je ne veux pas dire par là que tout était bien avant, loin de là, mais en réalité, les directions au sein des hôpitaux se sont trouvées complètement clivées, avec des gens qui ne savent plus communiquer les uns avec les autres, qui font des tas de réunions, mais qui ne parlent pas le même langage et qui n'ont pas comme centre d'intérêt le patient, qui doit rester effectivement la préoccupation de l'hôpital public, des médecins qui sont certes pour certains qui ont des plannings très très tendus, mais qui sont aussi pour certains d'entre eux très intéressés par le profit, alors que ça ne doit pas être le maître mot de l'hôpital public, des personnels qui sont contractualisés, qui signent des contrats tous les mois, qui ne sont pas pour moi respectés par l'institution, les petits de l'hôpital, c'est-à-dire les gens qui font le ménage, les gens qui font les courses, qui travaillent dans des conditions absolument épouvantables, qui sont pour moi des esclaves de la fonction publique. Voilà ce qu'est l'hôpital public actuellement et j'ai très peur.
Une question, vous dites que vous avez vu les choses évoluer ces 10 dernières années. Qu'est-ce qui a marqué le début de cette évolution d'après vous, Dominique ?
Oh bien, écoutez, je pense que ce qui a marqué... Alors, pour moi, je pense que la déstructuration du service public, elle est dans la tête des Français depuis déjà très très longtemps. On n'arrête pas de dire aux Français qu'ils payent beaucoup d'impôts et que je pense qu'il faut éduquer les Français parce que si les Français... Pour moi, voyez-vous, l'impôt sert à tout à chacun. Et en fin de compte, les politiques ont bien su mettre dans la tête des gens qu'il fallait pas payer d'impôts et que effectivement, comme il y a de moins en moins de budget pour les services publics, que ça soit l'hôpital public ou l'éducation nationale, et bien tout ça s'est délité. Ça s'est délité au fur et à mesure et qu'effectivement, on a moins en moins de budget. C'est très très compliqué pour obtenir du matériel. Les matériels sont dégradés. Tout est compliqué. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Vous faites parfaitement comprendre, Dominique.
Politique. Il y a une raison politique derrière ça. D'effectivement, de déstructurer tout ça, de cliver les gens les uns avec les autres. Et puis, au final, je pense que ça a commencé depuis très longtemps. Jacques Chirac disait déjà qui ont payé beaucoup d'impôts. Nicolas Sarkozy a certes fait beaucoup de mal et je ne dirai rien sur la mandature de François Hollande.
Restons-en là, effectivement, Dominique. Merci beaucoup pour votre appel et votre témoignage. Vous nous appeliez de la Manche. Alors, pour vous répondre, Frédéric Valtoux, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur le Président de la FHF, la Fédération Hospitalière de France. Vous êtes maire Les Républicains de Fontainebleau. Christophe Prudhomme, bonsoir.
Bonsoir.
Porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France et urgentistes au SAMU de Bobigny. Et on termine le tour de table avec Véronique Julia. Rebonsoir Véronique.
Bonsoir.
Spécialiste des questions de santé à France Inter. Dominique nous disait que ça a changé il y a 10 ans environ. Qu'est-ce que vous voulez lui répondre? Quelque chose s'est défait à l'hôpital, semble-t-elle dire. Des audits, du profit, des contractuels, des esclaves, dit-elle, sous-payés, mal employés. Quelle est votre réaction, Christophe Prudhomme?
Oui, je crois qu'elle décrit la réalité et elle est choquée, je crois, dans ses valeurs, hein, les valeurs de service public, l'humanisme, la médecine. Aujourd'hui, une enquête a été faite auprès des directeurs des ressources humaines dans l'hôpital et à 92%, ils répondaient que leur première préoccupation était l'équilibre des comptes. L'équilibre des comptes. Voilà, donc c'est ça qui pose problème aujourd'hui. C'est-à-dire que, bien sûr, chaque euro doit être bien utilisé, c'est clair. Mais aujourd'hui, la préoccupation d'un directeur d'hôpital, c'est avant tout d'équilibrer les comptes. Et on déstructure les équipes. Vous savez, moi, je travaille à l'assistance publique. On met en place aujourd'hui une réorganisation du temps de travail où il n'y a plus d'équipe fixe. On est un jour du matin, un jour de l'après-midi. S'il faut remplacer la nuit, il faut venir la nuit. Qu'est-ce que vous voulez? On a déjà un travail difficile. Donc, on peut soutenir dans une équipe. Quand on ne sait pas avec qui on travaille, quand on travaille, effectivement, il y a une perte de sens du travail. Et puis surtout, on a un encadrement aujourd'hui qui effectivement applique à l'hôpital les techniques de gestion, de production
du
privé, d'une entreprise classique. Alors l'hôpital, on peut dire, certains disent, c'est une entreprise, mais c'est pas quand même une entreprise comme les autres. C'est d'abord une entreprise humaine, c'est 70% des dépenses, c'est le personnel, ce sont 100 métiers, et effectivement avec des esclaves, il y a des esclaves, les petits emplois qui sont payés au SMIC et qui sont très importants, les agents hospitaliers, mais aussi on a des esclaves médecins. Il faut savoir qu'on importe des médecins à l'étranger. Vous savez que le film Hippocrate, c'est pas une caricature, c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Esclave, le terme est extraordinairement violent. Vous le maintenez ?
Je le maintiens. Oui. On pratique aujourd'hui avec des CDD, avec de la sous-traitance. Il faut savoir que ce qui est important aujourd'hui à l'hôpital, vous savez, les infections nosocomiales, les infections qu'on acquiert à l'hôpital sont très importantes. Quand on fait faire le ménage par des entreprises sous-traitantes dont on ne connaît pas la qualification du personnel qui change en permanence, on ne sait pas d'où viennent ces gens, malheureusement, souvent, on a parfois, vous savez, je suis syndicaliste, on trouve parfois des gens, on les soutient, qui sont sans papier, qui viennent travailler à l'hôpital, qui sont embauchés par des entreprises dont on vérifie pas du tout la qualification. Et du côté des médecins, vous savez, moi je travaille au quotidien avec beaucoup de médecins, vous savez, pendant les fêtes de Noël, pendant les grands week-ends, il n'y a pas beaucoup de Gaulois à l'hôpital qui travaillent. Hein. C'est le film Hippocrate, c'est la réalité aujourd'hui. Donc il y a besoin de réformes, mais les réformes qu'on nous sert tous les deux ou trois ans depuis maintenant 15 ans ne répondent pas aux objectifs.
Alors est-ce qu'il y a eu un basculement de modèle, Frédéric Valletoux, de l'hôpital service public à l'hôpital entreprise avec des fonctions d'audit, de gestion, de profit, disait Dominique. Quelle est votre lecture de la situation?
Je crois qu'il faut quand même apaiser un peu les choses, c'est-à-dire par rapport à ce qui vient d'être décrit par Christophe Prudhomme. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie lassitude, une vraie fatigue des personnels hospitaliers. Il y a un vrai épuisement dans les services parce qu'on a demandé beaucoup aux hôpitaux. Enfin, il faut quand même rappeler que l'hôpital reste un grand service public structurant de notre pays.
C'est une institution.
C'est une institution d'ailleurs. Si les Français aiment autant l'hôpital, ils le placent régulièrement au premier rang des services publics qu'ils apprécient, c'est qu'ils lui reconnaissent quand même de répondre toujours à ces grandes valeurs qui sont le soin pour tous, l'accès, bien sûr, quelle que soit sa pathologie, quelle que soit sa maladie, on sait qu'on est soigné à l'hôpital et sans qu'on regarde, et c'est encore une grandeur du système français, la couleur de la carte bancaire. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, il faut voir aussi que c'est un service public qui a énormément évolué ces dernières années. Enfin, il n'y a pas d'autre service public en France qui n'est à ce point connu de mutation, de révolution dans son organisation et dans ce qu'elle a à gérer. Enfin, la pénurie médicale dont on va peut-être parler, la révolution de la médecine, enfin les techniques de prise en charge, la montée de l'ambulatoire qui fait qu'on séjourne moins longtemps à l'hôpital parce qu'on ressort plus rapidement. Effectivement, les demandes d'économie parce que l'hôpital, comme tous les acteurs publics, ces dernières années doivent participer à la maîtrise des déficits. Et ça, je veux dire,
mais
tout le monde...
Mais est-ce que ça s'est fait au prix d'une révolution managériale et une révolution intellectuelle qui transforme l'hôpital entreprise.
Enfin, qu'on veuille gérer les hôpitaux, c'est une bonne nouvelle.
Oui, mais c'est une bonne nouvelle. Je vous demande en termes de culture de travail.
Faut sortir du mythe. Enfin, derrière, il y a de l'argent public dont tout le monde est comptable et qu'on veuille gérer les hôpitaux, c'est-à-dire qu'on veuille tenir des budgets. Heureusement. Alors effectivement, il y a aujourd'hui une pression budgétaire qui est forte, une pression à tenir les objectifs financiers qui est forte et qui viennent aussi à un moment où autour de l'hôpital, le système de santé ne fonctionne pas très bien. Enfin, je veux dire, si les urgences ont doublé de fréquentation en 10 ans, quel autre service public a vu sa fréquentation doubler depuis 10 ans? Aucun autre. Et donc, inévitablement, ça pèse aussi sur l'hôpital parce que la médecine de premier recours ne fonctionne plus très bien et elle ne joue plus ce rôle de premier rideau. Et inévitablement, ça pèse sur l'hôpital.
Véronique, Julia, et puis on passe au standard.
Bah, l'équation, elle est simple. Hein. 5 milliards d'euros d'économies demandées aux hôpitaux en 5 ans.
C'est totalement inédit comme effort.
Totalement inédit comme effort, alors que dans le même temps, la population vieillit, les maladies chroniques explosent, les progrès technologiques font qu'il faut investir dans des machines. Forcément, la victime à l'arrivée, c'est la masse salariale.
C'est-à-dire qu'effectivement, comme l'a dit Christophe Prudhomme, 70% du budget d'un hôpital, c'est le personnel. Donc effectivement, il y a c'est la variable d'ajustement parce que c'est le plus gros des budgets.
Donc on le rend plus efficace. On travaille en flux tendu parce qu'il faut gagner sur ce poste qui représente
70%. Et puis parce qu'on est aussi dans un secteur qui est très rigide et que les managers que Christophe Prudhomme vient de montrer du doigt sont soumis quand même aussi à des contraintes d'organisation qui sont fortes, à des contraintes statutaires qui sont réelles, qui font que les hôpitaux eux-mêmes ont du mal à adapter à leurs propres, j'allais dire, besoins des organisations plus souples, parce qu'il y a des carcans statutaires.
Vous voyez bien que ce management ne fonctionne pas avec la multiplication des suicides qu'il y a eu, qui sont liés à du harcèlement, à du management.
Non, c'est ça aujourd'hui. Vous voyez dans votre phrase, suicide et harcèlement, il faut faire attention aux mots. C'était un ancien Premier ministre, père d'une grande réforme sociale, enfin, pour certains comme étant comme tel, les 35 heures, c'est Lionel Jospin qui a dit que s'il y avait bien un secteur où les 35 heures avaient désorganisé les structures, c'est bien à l'hôpital. Donc ça prouve que là, il y a aussi des sujets sur les temps de travail et l'organisation des temps de travail.
Fabien, bonsoir. Allô Fabien, c'est à vous. Est-ce que vous êtes là ? Non. Est-ce que Clémentine est là ? Non. Est-ce que Zoé est là ?
Oui, je suis là.
Ah, Zoé. Alors, c'est Clémentine ou Zoé qui est en ligne ?
Clémentine.
Eh bien, soyez la bienvenue, on vous écoute.
Bonsoir à tous, je vous remercie de prendre mon appel. Je suis interne en médecine générale, je finis mon cursus à Marseille. Mm-hmm. Et moi, j'avais un témoignage à apporter et peut-être une question à soulever autour du désamour des jeunes médecins pour la fonction publique qui serait... à mes yeux, en partie dû à la façon dont ils sont traités par l'hôpital public durant leurs études et durant leur internat. Moi, ma première année d'internat, on a calculé, j'ai fait en moyenne 90 heures semaine, avec jusqu'à 3 fois 24 heures d'affilée dans une semaine, des conditions qui sont absolument pas aidantes au point de vue de la gestion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile de se projeter à l'hôpital après avoir eu des conditions de travail aussi, aussi difficile et déplorable pendant les années que j'y ai passé.
Comment vous envisagez précisément la suite alors ?
Alors moi j'ai repris mes études pour faire de la recherche et je les envisage en ville, tranquillement et pas au rythme que j'ai vécu. Que j'ai vécu jusque-là.
Bien compris. Merci Clémentine pour ce témoignage.
Merci à vous.
90 heures par semaine. Christophe Prudhomme, pas étonnant qu'on se détourne de l'hôpital vu comment l'hôpital nous traite, dit Clémentine.
Elle a raison. Parce que les internes, nos collègues à diplôme étranger, sont surexploités à l'hôpital. Parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a beaucoup de médecins, la majorité des médecins travaillent beaucoup à l'hôpital, mais il y a une petite partie des médecins qui ne travaillent pas beaucoup à l'hôpital. Et là, il faudrait des réformes, vous voyez, parce qu'il y a un certain nombre de médecins qui passent leur temps au congrès ou à faire de l'activité privée à l'hôpital public. Il faudrait faire un petit peu le ménage. Voilà, que tout le monde travaille et pour le salaire qui lui est octroyé dans le cadre de fonds publics, les fonds de la sécurité sociale. Donc, vous voyez, là, aujourd'hui, les mesures qui ont été prises par la ministre pour l'attractivité, on les critique, ce sont essentiellement des mesures financières. Ce que réclament les jeunes, c'est de meilleures conditions de travail. Travailler moins. Vous voyez, moi, je suis urgentiste. On a signé un accord après une grève avec la ministre en décembre 2014. Et là, on vient d'avoir une enquête faite par la Fédération hospitalière de France. 20% des hôpitaux, 22 mois après, l'ont appliquée. Or, cette réforme, c'était sur le temps de travail, un décompte en heures du temps de travail à l'hôpital. Vous voyez, on ne demande pas la lune, on demande qu'on décompte dans le temps de travail en heures et qu'on fasse pas plus de 48 heures par semaine. Si on dépasse 48 heures, qu'on soit payé en plus et sur la base du volontariat. Donc, vous voyez, on est quand même très raisonnable. On n'est pas dans le cadre des 35 heures qu'aurait déstructuré l'hôpital. Mais on demande que tout le monde soit traité de la même manière à l'hôpital. Or, aujourd'hui, c'est pas le cas. Vous voyez, ce que vivent les patients, c'est qu'effectivement, aux urgences, on essaye de bien les recevoir. Mais quand ils demandent un rendez-vous, en particulier dans les grands hôpitaux, dans les grandes villes en spécialité, c'est 3 mois, voire plus de délais, quand c'est dans le secteur public. Et si on accepte de payer en secteur privé, ça sera beaucoup plus rapide. Ça, ce sont des dysfonctionnements qui sont plus acceptables aujourd'hui dans le service public.
Véronique, Julia, puis on retourne au standard. Fabien est à nouveau parmi nous.
Bah, les désaffections des jeunes, il n'y a pas que le temps de travail. Il y a l'argument financier aussi qui n'est pas négligeable. Le privé paye deux fois plus, donc on peut comprendre aussi qu'il fasse ce calcul. Hein.
Christophe Prudhomme, puis Frédéric Valtoux.
Ça dépend des spécialités. Vous voyez, le problème, c'est qu'on a besoin effectivement de réformes. Aujourd'hui, en France, on a un véritable problème. À la différence d'autres pays, les généralistes sont déconsidérés, sont les moins bien payés. Par contre, le radiologue, qui a une pénibilité quand même modérée, c'est celui qui gagne le plus en France. Aujourd'hui, un radiologue, s'il va dans le privé, il n'a pas de garde, il ne travaille jamais la nuit, il gère sa petite entreprise, qui s'appelle son cabinet de radiologie, et il gagne deux fois et demi plus que son collègue qui est à l'hôpital, qui doit assurer la continuité du service public 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc ça ne va pas, si on ne change pas ça. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de privilèges, aujourd'hui, bien, dont il faut discuter franchement.
C'est vrai qu'on a laissé s'installer à l'hôpital.
Frédéric Valtoux.
Pardon, on a laissé s'installer à l'hôpital, dans notre système de santé, un système à deux vitesses, et effectivement, aujourd'hui, c'est l'hôpital qui en souffre, parce qu'on exerce moins on demande moins au secteur privé, au secteur libéral, et c'est vrai que le fait de ne plus participer aux gardes, par exemple, aux tours de garde pour les médecins libéraux, les médecins de ville, fait que ça, tout le poids pèse sur l'hôpital, et ça rejoint la fréquentation aux urgences que j'évoquais. Donc je suis assez d'accord, les mesures qui ont été proposées par la ministre, elles vont pas assez loin, parce que ça n'est pas simplement en montant quelques primes qu'on sera plus attractif pour des jeunes professionnels. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut peut-être augmenter fortement les salaires en entrée de carrière. Parce qu'aujourd'hui, un praticien hospitalier, il démarre très très bas. Il faut qu'il attende très longtemps pour avoir des salaires importants. Il faut peut-être mieux lisser.
Elle a essayé de le rééquilibrer, ça, dans les 250 millions.
Très visible, enfin pas assez. Et puis sur la régulation des médecins. Donc là, on sort du champ simplement hospitalier. Mais si on veut que l'hôpital remette l'hôpital à sa juste place, eh bien, ça veut dire que la médecine de ville, la médecine de premier recours, doit être mieux régulée. Et ça, là-dessus, il y a un vrai travail qui n'a pas été fait.
Alors, la parole à Fabien. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel.
Vous avez perdu. Vous avez la parole.
Alors, donc, moi, je suis chirurgien à l'hôpital public. J'ai une quarantaine d'années. Donc, c'est vrai que pour l'attractivité à l'hôpital, bon, le premier élément qui vient à l'esprit, c'est effectivement le salaire, même si c'est pas ce qui motive un médecin et un chirurgien quand il choisit au départ d'exercer à l'hôpital public. Moi, à bac plus 13, effectivement, à 40 ans, je touche à peu près 4600 euros net par mois sans les gardes et astreintes, avec des astreintes qui sont de l'ordre de 30 euros net par nuit. On n'est pas sur place, là où je travaille, et donc c'est de l'ordre de 30 euros net par nuit. Voilà, donc les 14 heures. Si on met de côté ces considérations pécuniaires, il y a d'autres aspects, évidemment, qui jouent. La considération par l'administration, comme vous le disiez tout à l'heure, avec une administration qui est uniquement axée sur l'activité. Nous, on nous demande de faire de l'activité à tout prix, avec parfois des discours qui sont relativement choquants. Hein. Les indications, c'est-à-dire les interventions, ne sont pas toujours effectuées forcément avec raison. Enfin,
expliquez-nous.
C'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'exemple d'une intervention pour un ménisque, pour une lésion méniscale, on sait qu'après 45-50 ans, une lésion méniscale n'est pas forcément chirurgicale. Il arrive qu'on nous dise pourquoi vous faites pas plus de ménisques. Écoutez, c'est pas grave, vous faites pas les infiltrations, vous envoyez pas le malade au rhumatologue pour faire des infiltrations, vous pouvez la mettre directement au bloc. Moi, c'est des discours que j'ai déjà entendus. Avec ce discours-là qui est partagé par les chefs de pôle, ce qu'on appelle les chefs de pôle, c'est-à-dire les médecins-chefs des hôpitaux, qui sont nommés par la direction et qui donc ont tout intérêt à aller dans son sens. Bon, il y a encore d'autres aspects. Quand on choisit l'hôpital public, en général, on privilégie le travail d'équipe avec les collègues. Ça, c'est plus vraiment possible parce que on travaille à flux tendu, donc on est chacun dans son coin, on n'arrive pas à voir les collègues. De même que les visites avec les infirmières ne sont plus possibles parce qu'on a des regroupements de services. Donc les infirmières font 3-4 spécialités à gérer, elles peuvent pas faire la visite avec les différents médecins et donc on fait la visite sur tableau, c'est-à-dire que voilà, on passe voir l'infirmière qui nous lit sur un papier ce qui se passe et puis ensuite on va voir les malades tout seul, sans kiné, sans infirmière. Il y a encore un aspect, c'est le bloc opératoire évidemment, avec les infirmières là aussi qui courent partout, qui ont plus le temps de faire attention, de vérifier le matériel, qui ne peuvent pas instrumenter, ce qui est une partie très intéressante de leur métier. Voilà, tout Donc les internes, quand ils sont là, les étudiants en médecine, ils voient cet aspect-là, ils voient tous ces aspects-là, et ils se disent, ben, quitte à faire de l'activité, quitte à ne plus faire de travail d'équipe, ben, peut-être autant aller dans les établissements privés.
Oui. Voilà. Merci Fabien, passionnant, très intéressant de vous écouter. Merci beaucoup. Frédéric Valtoux, vous souhaitiez réagir ?
Oui, non, je comprends complètement ce qui est dit, parce que ça rejoint beaucoup de témoignages, effectivement, qui racontent un quotidien qui s'est beaucoup bureaucratisé. Mais il s'est bureaucratisé pour les médecins, il s'est bureaucratisé pour les gestionnaires d'établissements. Enfin, on a un système, le pilotage des politiques de santé, qui, à rebours d'ailleurs de beaucoup d'autres politiques publiques, c'est énormément centralisé, bureaucratisé, suradministré. Et je prends un exemple, hein, la création des agences régionales de santé, qui était faite pour rapprocher le pilotage des politiques publiques du terrain, puisqu'on régionalisait les politiques de santé. Ben, finalement, dans les faits, se traduisent par un état supplémentaire d'administration et d'ingérence dans la gestion des hôpitaux. Donc ça pèse sur les médecins, mais ça pèse à tous les étages. C'est vrai que ça, c'est un vrai problème.
Cette contradiction que pointait Fabien d'opérations inutiles qui sont pourtant effectuées.
Les actes inutiles, ça, c'est un
pourquoi
sujet.
Pourquoi on demande d'opérer si il ne faut pas opérer?
Alors,
je ne comprends pas,
dans
ça coûte cher s'il n'y a pas
dans
d'argent.
Dans le cas concret, j'en sais rien. Il y a peut-être aussi...
Non, mais vous devez connaître la logique. Vous n'apprenez pas quelque chose.
Non, il y a la logique de la tarification à l'activité, qui, bien sûr, c'est un modèle de financement qui, effectivement, conduit à... peut conduire à multiplier des actes redondants ou inutiles, très clairement. Et ça fait longtemps que nous, on demande à la Fédération hospitalière qu'il y ait un recalage de ce système de financement, justement parce que il y a des abus, ou il y a même des perversions du système qui ne sont pas des abus. C'est-à-dire que, pour faire simple, un hôpital qui est dans une zone, une démographie, un territoire qui sur le plan démographique, n'est pas dynamique, ne va pas avoir d'activité qui, naturellement, va augmenter. Eh bien, s'il ne pousse pas les actes, compte tenu que les tarifs d'année en année baissent, s'il ne pousse pas les actes, il perdra du budget. Et donc, c'est vrai que perdre du budget, c'est déstabiliser l'hôpital. Donc, il y a tout un tas de mécanismes de dysfonctionnement qui ont été repérés depuis longtemps. C'était normalement un des grands engagements du gouvernement que de s'attaquer à ça. On n'a rien vu bouger, et c'est dommage, parce que les dysfonctionnements, ils sont pointés depuis longtemps, connus, mais il faudrait s'y attaquer.
Véronique, puis Christophe Prudhomme.
Très concrètement, il faut que l'hôpital fasse du ménisque, comme disait l'auditeur. Pour avoir plus d'argent l'année
prochaine. Il faut qu'il fasse de la pathologie rentable. C'est-à-dire que la mécanique. Vous savez, on a toujours ce travers en France de vouloir copier ce qui s'est fait à l'étranger, qui était à évaluer avec effectivement avantages, inconvénients, la tarification à l'activité. Hein. C'est-à-dire que on a des actes rentables et d'autres moins rentables. Ça a été mis en place au Canada, à un moment où le Canada était en difficulté, avait des difficultés financières, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait une perversion. C'est-à-dire qu'il y avait des pathologies, des maladies rentables et d'autres moins rentables.
Alors expliquez-nous ce que c'est qu'une maladie rentable.
Et ben, la maladie rentable...
On ne meurt pas idiot.
C'est effectivement...
Mieux remboursé par l'assurance maladie,
avec peu d'hospitalisation en ambulatoire. Vous voyez, c'est assez simple. Je vais prendre deux exemples. Si vous faites effectivement une opération du ménisque en ambulatoire, c'est très rentable, un acte court, pas d'hospitalisation. Un accouchement, il y a de l'hospitalisation, c'est assez complexe, il peut y avoir des complications, faut faire attention. Et donc, si vous voulez être rentable aujourd'hui, quand vous faites un accouchement, il faut qu'au deuxième jour, il faut mettre la femme dehors, autrement après, mais vous êtes en déficit. Donc vous voyez, c'est complètement pervers. Donc c'est cette logique, vous savez, la suradministration, elle est liée à cette logique financière. Plus on met en place cette logique financière, plus il faut d'administration pour contrôler. Vous savez, rien que le système de contrôle de la tarification, cette fameuse tarification à l'activité, c'est une grosse structure qui a été mise en place, qui coûte 350 millions, c'est le rapport de la Cour des comptes. Rien que pour gérer une structure de facturation. Vous voyez. Donc alors qu'il y a des possibilités, parce qu'on nous dit, il n'y a pas d'argent. Mais moi, je vais vous donner un exemple. Les hôpitaux qui payent beaucoup de salaires, 70% des dépenses, ce sont les personnels, payent aujourd'hui un impôt qui s'appelle la taxe sur les salaires, que le patronat a réussi à s'exonérer. On vient d'exonérer le privé à but non lucratif et l'hôpital continue à payer. Cette taxe sur les salaires, c'est 3,5 milliards d'euros par an. 3,5 milliards d'euros par an, c'est une marge de manœuvre pour les hôpitaux de 70 000 emplois. Donc vous voyez, moins d'impôts pour l'hôpital, ça permettrait de dégager des moyens et des emplois pour qu'on puisse mieux travailler.
Frédéric Ville.
On avait fait un sondage. On avait fait un sondage il y a 2-3 ans, mais auprès des médecins. Et les médecins eux-mêmes disaient il y a à peu près 30%. Alors médecins tout compris, pas qu'à l'hôpital, hein, tout compris. Spécialistes, généralistes, médecins de ville, médecins hospitaliers. Et il disait qu'à peu près 30% des actes qu'il prescrivait étaient sans doute des actes inutiles. Et c'est vrai qu'il y a là des gisements d'économie très importants. mais c'est l'assurance maladie a jamais vraiment voulu s'attaquer au sujet parce qu'elle a tous les chiffres, l'assurance maladie. Elle sait qui prescrit quoi. Et puis je voudrais aussi relativiser parce que faut pas toujours taper sur l'hôpital parce que l'hôpital lui demande quand même beaucoup. On demande beaucoup aux hospitaliers, mais l'hôpital c'est un élément du système de santé. Et je pense que les prescriptions inutiles, la course aussi à l'acte le rémunérateur, on le trouve aussi chez les autres acteurs du système de santé, peut-être beaucoup plus qu'à l'hôpital.
Alain, bonsoir.
Oui, bonsoir Nicolas. Alors Nicolas, je vous rassure, si vous voulez mourir idiot, venez pas à l'hôpital. Voilà. Alors moi, je vais pas sombrer dans l'angélisme parce que tout ce que j'ai entendu me passionne. Je suis cadre depuis presque 33 ans, dans quelques semaines, dans un hôpital public. J'ai l'amour de mon métier, j'ai l'amour de l'hôpital et ça, c'est quelque chose quand on l'a acquis, on ne peut pas s'en débarrasser. Moi, je vais juste recentrer un tout petit peu sur ce qui était à l'origine le thème de cette soirée. C'était un petit peu les mesures attractives pour certains médecins hospitalier. Mais je trouve qu'il est effectivement dommage qu'on se soucie un petit peu tardivement de cette problématique parce que moi je disais à votre standardiste que je travaille dans plusieurs services et notamment dans les services de maladies infectieuses et services d'immunohématologie et je côtoie des médecins qui sont là, comme disait tout à l'heure l'interne, qui faisait 90 heures, mais ces médecins, ces praticiens hospitaliers, ils font 70, 80, 80 heures, 90 heures semaine avec, on le sait, hein, des salaires qui en début de carrière sont des salaires de misère. Je pense que les gens ne maîtrisent même pas ce que peut gagner un prat hospitalier quand il est juste contractuel. Et je voudrais justement qu'on se rende compte de ce clivage qu'il y a avec certaines spécialités, notamment dans le privé, hein, on ne va pas se raconter l'histoire, tout le monde a eu besoin d'un rendez-vous chez l'ophtalmo, chez l'ORL, etc. Et je voudrais qu'on prenne conscience du dévouement, de la notion de service public et de l'amour du service public qu'ont ces médecins hospitaliers. Voilà, alors je verse peut-être un petit peu dans l'angélisme, mais je crois que voilà qu'il faut qu'on ait conscience de cet outil qu'on a qui est extraordinaire, qui est l'hôpital public avec un grand H. Et faisons attention, parce que l'hôpital public, demain le H, il peut perdre ses jambes. Voilà.
Merci Alain. La parole à Noël. Bonsoir Noël.
Oui, bonsoir. Merci pour vos émissions.
Merci à vous
de prendre mon appel. Moi je vais tout à fait dans le sens des deux précédents intervenants. J'ai eu la malencontreuse idée il y a quelques années de vouloir jouer au ballon avec mon petit-fils. C'était un samedi soir, le gazon était mouillé et je suis tombé, je me suis cassé le tibia et le péroné. Panique à bord, il a suffi de prendre le téléphone, d'appeler le 15 et là toute une infrastructure s'est mise en route. Dans l'heure et demie qui suivait, j'étais dans le Nord-Cotentin, dans l'heure et demie qui suivait, j'étais à l'hôpital, au service des urgences. C'était un peu bousculé, c'est vrai, mais à chaque fois que quelqu'un passait à côté, on me demandait si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose. On a fait une radio. Bon, le lendemain, je devais être opéré le matin, mais je n'ai été opéré que l'après-midi, mais... Il faut dire aussi que là, voilà, les chirurgiens, ce week-end-là, il n'y en avait pas beaucoup. Donc la chirurgienne qui m'a pris en charge a été obligée de travailler toute la journée et durement. Je dis c'est formidable parce que je ne sais pas si dans d'autres pays ça peut être fait. On ne m'a pas demandé si j'étais riche, on ne m'a pas demandé si j'étais pauvre. Lors de ma carte vitale quand même, je sais qu'autrement moi, il l'aurait fait quand même. Et voilà, il y a toute une machinerie qui se met en route avec du personnel qui est disponible parce que ce personnel de l'hôpital de Cherbourg, quoi qu'on en dise, il était disponible, bien qu'ils étaient... un peu débordé.
Donc vous regrettez pas de vous être cassé la jambe, Noël, en fait. Ça a été une merveilleuse expérience.
La première fois, j'ai cette chance de ne jamais avoir eu beaucoup besoin de ce système, mais la seule fois où j'en ai vraiment eu besoin, j'ai trouvé que, un, la machine fonctionnait très bien, deux, le service... Quoi qu'il y ait eu des petits détails,
bien sûr,
mais c'était
bien
vraiment
sûr.
Des détails. Et le la machinerie fonctionnait très bien et le personnel était disponible.
Eh bien, on en reste là.
Soit, même s'ils étaient débordés.
On en reste voilà. Là, Noël. Merci beaucoup pour ce témoignage que je livre à Christophe Prudhomme.
Et bien sûr, notre système fonctionne bien, heureusement. Mais ce qui nous inquiète, et la raison pour laquelle on a cette émission, c'est qu'on est au bord de la crise de nerfs. Et oui, on est au bord de la crise de nerfs. Là, vous voyez, sans être alarmiste, le fait que, je vous dis, ce protocole d'accord de décembre 2014 ne soit pas appliqué, fait qu'aujourd'hui, nous avons de nouveau une fuite des urgentistes, que l'on risque à Noël là c'est dans quelques semaines, on risque d'être dans l'impossibilité d'assurer la continuité de l'accueil des urgences et du fonctionnement des SAMU dans un certain nombre d'hôpitaux en France à Noël, par manque de médecins. Aujourd'hui...
Quand vous dites qu'il y a une fuite, ils fuient où
mais ils n'en peuvent plus. Vous voyez, quand vous faites 90 heures par semaine, vous avez beau aimer votre métier, il arrive un moment donné, 60% des jeunes médecins sont des jeunes femmes, il arrive un moment donné, vous comprenez, entre sa vie personnelle et puis voilà, la bonne sœur ou le moine soldat, ça ne fonctionne plus. Donc, il arrive un moment donné, il faut se donner les moyens. Or, là, juste pour donner un exemple, on est en région parisienne. Ce matin, à Meaux, pour faire fonctionner les urgences, on a supprimé une équipe de SAMU. C'est-à-dire, si quelqu'un faisait un arrêt cardiaque, il n'y avait plus personne pour aller le secourir. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de médecin. Parce que les médecins abandonnent, vont faire autre chose, parce que l'hôpital, les urgences, les services où il y a ces contraintes de garde, de faire fonctionner le service public 365 jours par an, fait que on s'est dépensé, on a fait le maximum ces dernières années, mais si aujourd'hui on a ce cri d'alarme qui est lancé par un certain nombre de nos collègues, c'est parce que nous sommes attachés à continuer à offrir le service que décrit ce patient. Noël. Mais demain, on risque d'être dans l'impossibilité de l'offrir.
Frédéric Valletoux.
Enfin, j'aurais juste, est-ce que vous vous êtes interrogé à savoir pourquoi aussi peu d'hôpitaux appliquaient ce protocole d'accord ? Moi, je vais vous donner la
réponse.
Parce
qu'il n'y a pas d'argent.
Parce que, un, il n'y a pas d'argent, et deux, ça déstabilisera encore plus l'hôpital. Alors, vous dites d'un côté qu'il ne faut pas déstabiliser l'hôpital, et puis de l'autre, vous êtes allé négocier votre profession, les urgentistes, un accord avec la ministre. Dans une grève qui a démarré un lundi matin, à 10h, vous signez l'accord. Donc c'est vrai que, si vous voulez, et qui a coûté presque de 100 millions d'euros aux caisses de l'hôpital.
Là où depuis, ça n'a rien coûté parce que vous l'appliquez pas.
Oui, qui peut coûter s'il serait appliqué 100 millions d'euros.
Ce que je veux dire, d'État,
ce que je veux dire simplement, c'est que le problème de l'organisation des temps de travail à l'hôpital, il est réel. Et il ne concerne pas que les urgentistes. Il est global. Et il concerne l'ensemble des métiers de l'hôpital. Parce que ne traiter le sujet que par le petit bout de la lorgnette, ça peut être intéressant pour effectivement ceux qui défendent uniquement cette catégorie de praticiens hospitaliers.
On demande à ce qu'il soit généralisé à tous les médecins de l'hôpital.
Mais on ne peut pas généraliser pour une profession un accord alors que le problème, il est global. Derrière les urgentistes, il y a les anesthésistes,
les heures de travail,
il y a les radiologues.
Un problème pour tous les médecins.
Donc si vous voulez, nous, ce que moi je plaide depuis des années, ce que j'ai demandé à la ministre, pour l'instant je n'ai pas été beaucoup entendu, c'est de... sereinement, tranquillement, mettre l'ensemble des acteurs syndicaux autour de la table pour regarder ce problème du temps de travail. Parce que aujourd'hui, tout le monde, tous les services sont déstabilisés. La lassitude, c'est parce qu'on rappelle des infirmières qui sont parties en congé, parce qu'il y a des astreintes, il y a des désorganisations et qu'il faut, maintenant qu'elles reviennent pour faire tourner le service. Vous savez que depuis 10 ans, ce qui a aussi changé à l'hôpital, c'est qu'il y a des gens dont le métier à plein temps, ce qui n'existait pas avant, hein, c'est de gérer des plannings. Des dames, des cadres de santé, hommes ou femmes d'ailleurs, mais qui sont de tous les jours à gérer des plannings qui deviennent ingérables.
Véronique.
Alors on voit que l'hôpital tient beaucoup sur la bonne volonté et la motivation des personnels aujourd'hui quand même. Question, est-ce que Marisol Touraine a fait ce qu'il fallait ces 5 dernières années? Et ensuite, est-ce que les candidats à la présidentielle émettent des solutions qui vous paraissent aller dans le bon sens ou est-ce qu'ils n'en parlent pas assez justement de l'hôpital?
Frédéric Valletoux, je rappelle que vous êtes maire Les Républicains de Fontainebleau, pour donner un élément de contexte à votre réponse. Voilà. Non, il faut donner les informations, président de la Fédération Hospitalière de France.
Il n'y a aucun sujet, il n'y a aucun problème.
Voilà, donc,
simplement, il y a beaucoup de questions.
Dès lors que la question est politique, je me permets
non, mais vous avez raison,
de souligner.
Bilan de Marisol Touraine.
Alors, bilan de Marisol Touraine, pour le faire court, il y a des choses qui ont été faites, bien sûr, il ne faut pas être caricatural, et des sujets ont été abordés, mais d'abord de manière très timide. Regardez sur la régulation, je reparlais de la régulation et la lutte contre les déserts médicaux. Le résultat, quand on le fera, le bilan, quand on le tirera dans quelques mois, il n'est pas... Enfin, il n'y a aucune tendance de fond qui n'ait été inversée sur ce sujet. Et sur l'hôpital, on a fait des stratégies d'évitement. On a évité d'aborder la question des temps de travail. On a évité d'aborder la question du financement et la réforme de la T2A, qui avait été mise pourtant sur la table par François Hollande en 2012. On a évité effectivement, on a timidement, ça a été un peu évoqué par les uns et par les autres, on a timidement abordé la question de l'attractivité des carrières médicales à l'hôpital. Donc, il y a eu une stratégie d'évitement, et puis et quand il y avait des petits incendies, comme les urgentistes qui se mettent en grève, en 2 heures, on signait un accord avec eux, et en sachant qu'ils seraient impossible à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, les urgentistes ont raison de dire l'accord qu'on a signé, on nous a, c'est un leurre parce qu'il ne peut pas se mettre
en
œuvre.
Avant la présidentielle, le bilan de Marisol Touraine, Christophe Prudhomme,
Alors moi, pour être clair, je suis à la MUF, mais aussi à la CGT. Donc, le bilan est globalement négatif, on va dire. Le bilan est globalement négatif, mais il est globalement négatif pour tous les ministres qui se sont succédés, quelle que soit leur couleur politique, depuis 20 ans. On peut pas traiter l'hôpital en dehors du système de santé. Vous savez pourquoi il y a une explosion du passage aux urgences? Parce que il y a pas assez de médecins généralistes qui sont surchargés de travail. Donc voilà, il faut plus de numerus clausus.
CGT et les Républicains parlent d'une même voix sur le sujet.
Il faut le noter. Plus de généralistes et moins de spécialistes. Il faut plus de rémunération à l'acte parce qu'aujourd'hui, 60% des dépenses de la sécurité sociale, ce sont des patients qu'on appelle en affection de longue durée. Donc, ils n'ont pas une seule maladie. Vous avez l'hypertension, le diabète. Donc, c'est du travail collectif, en équipe. Donc, il faut des centres de santé, pas des cabinets médicaux. Il faut des centres de santé qui travaillent en lien avec les hôpitaux de proximité, que le CHU fasse son travail, le CHU, les greffes, mais ils ne fassent pas l'impanicite, qu'on la fasse à proximité. Bien sûr, il faut de l'ambulatoire, mais pour faire de l'ambulatoire, il faut qu'il y ait ce lien avec la médecine de ville. Donc, voyez des réformes aujourd'hui. Quel candidat, quelle que soit sa couleur politique, dit il faut plus de numerus clausus, il faut plus de généralistes qui soient mieux payés, il faut plus de liberté d'installation, il faut une meilleure répartition sur le territoire, et il faut une réforme des hôpitaux qui ne soit pas uniquement basée sur la politique d'entreprise avec une rémunération à l'acte. Il n'y en a aucun. Donc il y a un vrai débat, parce que c'est ce que souhaite la population, qu'on puisse avoir un système de santé, comme le décrivait votre auditeur tout à l'heure, qui continue à être basé sur les valeurs d'humanisme et de service public.
Christian, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Marseille, soyez le bienvenu.
Oui. Merci. Alors moi, je suis un patient, tout simplement, et je voulais tout simplement faire un témoignage d'excellence. J'ai été admis ces derniers mois à l'hôpital européen à Marseille et à l'hôpital de Gap pour des examens et une intervention à Gap, et je voulais simplement dire que malgré tous les problèmes dont j'ai entendu parler là depuis le début de l'émission, j'ai été chaque fois accueilli merveilleusement bien, j'ai été soigné encore mieux, on va dire, et ce, par des gens très très professionnels, mais aussi particulièrement humains, et donc je veux simplement leur dire un grand bravo.
Et merci, j'ai l'impression, Christian, c'est ça.
Et merci, bien évidemment, parce que je crois que si ce système n'existait pas, ou du moins de la manière dont il existe aujourd'hui, eh bien, nous serions sans doute dans une position et dans une situation fortement désagréable. Je parle évidemment en tant que patient. Voilà, je voulais dire un grand merci et un grand bravo.
Merci à vous, Christian. Ça vous fait plaisir à tous les deux, j'imagine, Frédéric Valdoux.
Oui, parce que ça prouve que la valeur d'humanité, elle n'a pas disparu. Et au-delà des difficultés de gestion, d'organisation, etc., même si les personnels, effectivement, on leur demande énormément, et ben, il n'empêche que ce qu'ils transmettent d'abord aux patients, en tout cas, c'est ce qu'on voit à travers vos deux témoignages, ce qu'ils transmettent, c'est des valeurs d'accompagnement. D'humanité.
Mais heureusement qu'ils ont la foi, chevillés au sol.
Mais les hospitaliers ont la foi, vous savez.
Ouais, Ce sont des feignants de fonctionnaires qui bossent beaucoup. Voilà. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'entre le discours et ce que vivent les personnels, vous savez, ce que vivent les personnels depuis 30 ans, c'est des réformes avec comme seul objectif des économies. Et il y a un vrai désaveu de la politique chez les personnels de santé, toutes catégories confondues. On aimerait bien que les personnels de terrain, avec les patients, soient entendus, parce qu'il y a besoin de vraies réformes. J'ai cité quelques pistes tout à l'heure, et c'est ça le problème, c'est que si on ne fait rien, l'hôpital public va se dégrader et va mourir.
On en reste là, messieurs. Merci. Je vous cite juste ce témoignage d'Emmanuel. « Je suis clown à l'hôpital », nous dit-il. « Plus ça va, plus on a l'impression que notre travail est aussi important pour les soignants que pour les soignés. » J'imagine que ça, c'est une blague que vous avez déjà dû entendre.
Ça résume bien les choses.
Voilà. Merci en tout cas à vous, Frédéric Valtoux, président de la FHF, la Fédération Hospitalière de France, maire Les Républicains de Fontainebleau, Christophe Prudhomme, CGT, porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France et urgentistes au SAMU de Bobigny, Véronique Julia, spécialiste des questions de santé à France Inter. Énormément de questions au standard ce soir. Le journal est à suivre.